parole du jour avec le Père Willem.
Sur les traces de Gandhi, dans la cour de Rastriva, les gens parlent encore du jeûne que Gandhi y observa. Cette institution, construite en 1921 grâce au don du chef de l'État de Raikot, est aujourd'hui une école d'art et de design. À l'époque, la mission de l'institution était éducative, sociale, culturelle et aussi commerciale pour la vente de khadi, un tissu filé et tissé à la main et des produits des industries villageoises. En 1939, Gandhi dénonce les conditions de détention des condamnés dans la prison et met en cause le chef de l'État de Raikot, Thakur Sahib, et lui adresse quelques jours plus tard un ultimatum. Oui, un ultimatum, il a le courage de le faire, le sommant alors de mettre fin à ses mauvais traitements et menace d'entamer un jeûne. Une partie du bras de fer s'engage. Elle durera 3 jours, au cours desquels le jeûne du septuagénaire alerte l'opinion publique. Poussé par le vice-roi et l'arbitrage du juge en chef de l'Inde, Thakur Sahib finit par céder et alors Gandhi met fin à son action. Arme puissante de la palette non violente, véritable moyen de pression, le jeûne fut élevé par Gandhi au rang d'arme politique. Il l'utilisera ainsi à 10 de reprises. Son abstinence durait quelques jours à plusieurs semaines. Jouant avec les limites physiques de l'organisme, suffisamment prolongées pour que ses adversaires puissent entrevoir l'éventualité d'une conséquence funeste et induire en eux une forme de culpabilité. C'est ainsi qu'il écrira. De même qu'il faut apprendre à tirer pour pratiquer l'art de la violence, de même on doit savoir se préparer à mourir pour s'entraîner à la non-violence. La violence ne libère pas de la peur, mais cherche à combattre la cause de la peur. Au contraire, la non-violence est exempte de toute peur. Le non-violent doit se préparer aux sacrifices les plus exigeants pour s'affranchir de la crainte. Il ne se demande pas s'il va perdre sa maison, sa fortune ou sa vie. S'il n'a pas surmonté toute appréhension, il ne peut pratiquer l'abhimsa à la perfection. Abhimsa, c'est-à-dire la non-violence. La seule crainte qu'il garde est celle de Dieu. Celui qui cherche refuge en Dieu ne tarde pas à entrevoir l'Atman qui transcende le corps, et c'est alors que plus rien ne nous attache au corps. Ainsi, la vérité doit se faire connaître non par les souffrances que l'on inflige aux autres, mais par celles que l'on s'impose. Sur la route de Palitana, près de Bhavana Nagar, une famille marche en procession sous l'étendard orange de la religion hindouiste. Venue de Maharashtra, leur pèlerinage touche bientôt à son but. Quelques années plus tôt, ne parvenant pas à avoir d'enfants, le couple s'en était remis au gourou du lieu. La femme avait enfin connu les joies de la grossesse. Un fils était né, son 10e anniversaire approchant, c'est en famille qu'ils viennent remercier l'action du bienfaiteur en son temple. sous les dards du soleil d'été, il traverse un petit désert parcouru par de minuscules vallées qu'enrichissent la vie. Et ces vallées sont envahies de marées océanes. Sur les rives, les blanches traînes salines attirent les flamants roses qui s'invitent en résidence. La religion se vit autant dans les temples et les grands festivals qu'à travers des initiatives individuelles de jeûne ou de pèlerinage hors des itinéraires balisés. Chacun marche vers son destin et trace le chemin de sa foi, sans le séparer de celui de son existence. Celui-ci est vécu dans les difficultés de la marche, de la soif et de l'ascèse partagée par les nombres de la famille qui viennent et voyagent ensemble. Sur les routes indiennes, les vœux, les espoirs et les croyances constituent l'énergie des marcheurs. La nuit s'étire sur Palitana. Déjà des ombres blanches parcourent les rues de la ville. Les frêles silhouettes des pèlerins se faufilent dans la pénombre. Leur pas est léger et leur bâton effleure le sol. Tous convergent vers Sri Chaturvajrayana, Sat Palati Mandir, leur temple et leur lieu saint, bâti au pied de 3900 marches. Le ciel s'éclaircit. La colline de Satrumi Niyava apparaît, passage obligé de l'existence de tout pèlerin. Jaïn, Jaïn, Jaïn. En silence, l'ascension commence, rythmée par des souffles haletants, le bruissement des étoffes de coton, le frottement régulier des pieds nus. Sur le sol, ceux des dévots glissent avec légèreté sur les marches de pierre, comme autant de petits gestes caressant à l'attention des prophètes vers lesquels elle s'élève. Une nonne âgée appuie ses mains sur sa hanche endolorie et chuchote quelques mots à un jeune disciple. Elle montera à son rythme, laissant la novice grimper au sien. Lors d'une halte, un garçon demande la bénédiction de la novice. Ceci, d'un regard, obtient l'approbation de son mentor. Elle s'approche, appose sa main droite sur le front de l'enfant et prononce la formule rituelle avant de reprendre au pas de charge sa montée. En haut des marches, 9 enceintes apparaissent. Elles sont désertes et fermées la nuit, ces enceintes. Elles protègent plus de 800 sanctuaires bâtis à partir du 11e siècle. Nombre d'entre eux sont dédiés à d'illustres personnages, mais les principaux sont élevés en l'honneur des Tirthambara. Ayant visité plusieurs fois le lieu, le premier d'entre eux, Adinathara, est aujourd'hui véhiculé et ensuite il a été vénéré dans le temple le plus ancien, érigé en son honneur par son fils. Surmonté de dômes, décoré et orné de nombreuses sculptures finement ciselées, le vestibule du temple dégage une atmosphère de crypte. Assis sur le marbre lisse du parvis, des fidèles composent sur des plateaux d'offrandes des figures en forme de swastika à l'aide de grains de riz. D'autres prient pendant que des pèlerins accomplissent autour de petits sanctuaires des rondes sans fin, circonvolutions rythmées par le murmure de leurs incantations.
Thank you.